Super trooper beams are gonna blind me, but I won't feel blue.
Bienvenue sur G7. Nous mettons en selle avec Matteo, Victor et Emmanuel pour nous parler d'un sport de cow-boy.
Galop, galop, le gros taureau. Hey, salut à tous. Connaissez-vous le sport dangereux à taureau Vouscou? Eh oui,
c'est le
rodéo. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous sommes avec Jonathan Buillard. Bonjour Jonathan.
Bonjour à vous.
Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots?
Alors, j'ai 29 ans, je conduis des trains. Et comme sport, je monte à cheval en monte western.
C'est quoi le rodéo?
Alors le rodéo, en fait, on dit toujours le rodéo. Et en réalité, il y a plusieurs disciplines dans le rodéo. Vous avez en fait du bull riding, comme tout le monde connaît, la monte de taureau sauvage. Ensuite, la monte de bronco, la monte de chevaux sauvages. Et sinon, du barrel race, une discipline qu'on court autour des tonneaux le plus rapidement possible. Ensuite, vous avez du ranch sorting, du team pinning, du cutting et du roping. Le roping, c'est le sport un peu que tous les gens adorent et tous les gens détestent parce qu'en fait, on attrape des petits veaux avec du lasso. Et moi, je fais du ranch sorting.
On croit qu'on connaît tout sur le rodéo, mais il y a tellement de sorts qu'on n'en connaît pas beaucoup.
Exactement, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en fait, un rodéo, en fait, c'est la place de concours où ça se passe. Et après, on met les disciplines ensemble.
Et c'est quoi le but du jeu?
Alors, le but du jeu, moi, je fais du ranch sorting. Alors, je vais vous expliquer le ranch sorting. En fait, c'est deux grands cercles de 18 mètres de diamètre qui sont collés l'un à l'autre avec une porte de 3 mètres entre deux. On est deux cavaliers. On a 12 vaches avec 10 vaches qui portent des numéros entre 0 à 9. Et en fait, avec ces vaches, on les trie dans l'ordre des numéros. Admettons, on a un juge qui est là, qui va nous dire, voilà, vous prenez la numéro 3 et on va remonter 3, 4, 5, 6, 7, 8, et jusqu'à arriver à la fin. On a deux leurres qu'on ne doit jamais passer. Si on passe, on est éliminé. Ou si on a une fausse vache qui passe, même le bout du museau, on est éliminé. Et pour tout ça, on a entre 1 minute 20 et 1 minute 30. Tout dépend en fait dans quelle région on est. En Suisse, on a 1 minute 30 et à l'étranger, on est en dessous.
C'est quoi la race d'animaux qui sont utilisées?
Alors les races d'animaux, vous pouvez trouver plein de races. En fait, dans les vaches, on utilise autant des Holstein et des Holstein qu'on trouve dans nos parcs par chez nous, ou des races plutôt à viande, du style Limousin, Angus, Aubrac ou comme ça. Et dans les chevaux, vous avez un peu de tout. Vous avez surtout, à mon avis, je pense, du Quarter Horse, qui est la race un peu reine. Et ensuite, on a du Paint Horse, du Lapalooza. On commence à venir avec un ou deux Espagnols. Et sinon, on a des bons vieux Franche-Montagne de par chez nous.
Où cela se pratique-t-il en Suisse?
Alors, ça se pratique un peu dans toute la Suisse. On a autant en Suisse allemande qu'en Suisse romande. Moi, je suis plutôt basé sur la Suisse romande ou alors plutôt sur la France ou l'Italie. Et en Suisse, on peut le faire en fait au Bois d'Archamps, au-dessus de Lausanne. Ensuite, vous avez à Romofens, à Tramelan, à Payerne. Ça, c'est nos places de concours et on peut aussi s'entraîner là-bas.
Est-ce que c'est ouvert à tout le monde, le ranch sorting?
Alors, ranch sorting, c'est ouvert à tout le monde. Dès le moment où on a un cheval qui n'a pas peur des vaches, et qu'on a envie d'essayer, on peut s'admettre à venir à un concours, à une place de concours. On a une classe de rookies, en fait, qui c'est tout des débutants et on peut en fait se mesurer aux autres débutants pour essayer.
Et pourquoi avez-vous commencé le rodéo?
Alors en fait, moi j'ai commencé le comme j'ai dit avant, le ranch sorting et puis aussi du team penning. J'ai commencé ça en fait parce que mon grand-papa est agriculteur et mon grand-papa a des vaches. J'ai toujours adoré les vaches, mais j'ai aussi aimé beaucoup les chevaux. Et j'aime beaucoup le monde américain et j'ai cherché pendant des années qu'est-ce que je voulais faire. Et du coup, ben, je me suis lancé en fait le défi de commencer du ranch sorting et du team penning.
Ça coûte cher le rodéo?
Alors le rodéo coûte cher, oui et non. Tout dépend en fait ce qu'on fait comme discipline. Dans ma discipline, en fait, ce qui coûte cher, c'est beaucoup les pensions des chevaux. Les concours, ça coûte quand même quelque chose, ça c'est clair, c'est beaucoup plus cher que du foot. Mais après, c'est toujours la même chose, c'est qu'est-ce qui est cher pour chaque personne.
Et comment vous entraînez-vous avant un concours?
Alors avant un concours, en fait, c'est simple. Je m'entraîne comme une personne qui monte à cheval pour du saut ou bien du dressage. Je fais simplement travailler mon cheval sur du plat, on appelle ça. Soit je le longe, soit je le monte. Je fais des exercices simples, des assouplissements comme vous faites au foot. J'entraîne en fait pour, par exemple, que mon cheval, il ait quand même, comme on dit, un cœur. Donc ça veut dire qu'il ait quand même le cœur qui soit assez musclé pour pouvoir faire le travail que je lui demandais. Ça, c'est tout ce qui est du travail de base. Comme quand vous allez vous entraîner pour le foot, vous courez sur votre terrain de foot. Eh ben, nous, on fait la même chose. On entraîne notre cheval pour pouvoir courir. Après, tout ce qui est pour les gestes techniques, je vais m'entraîner soit dans les vaches ou soit chez mon entraîneur en France. Et là, par exemple, moi, je préfère aller souvent sur un veau mécanique. Comme ça, je peux corriger les erreurs de mon cheval et ainsi mes erreurs aussi. Parce que cheval, en fait, on dit toujours, c'est toujours la faute du cheval, comme on dit chez nous. Mais en réalité, c'est beaucoup la faute du cavalier.
Et nous vous laissons avec une musique de rodéo.
tombé dans le piège, cow-boy par le siège, t'as misé sur le mauvais cheval. C'est ton premier cri et tout le monde applaudit.
Et nous revoilà en selle. Comment vous organisez-vous avant le rendez-vous?
Alors avant un concours, en fait, ce que je vais m'organiser, c'est toutes mes affaires, déjà tout préparé avant la veille au soir si possible, ou alors même quelques jours avant, tout chargé, afin de rien oublier, parce que c'est vraiment un sport où il ne faut pas grand chose oublier, et si on oublie quelque chose, ben, on fait tout pour avoir à double.
Et comment mangez-vous et buvez-vous avant les concours?
Alors manger, je vais être franc avec vous, il faut manger assez sainement quand même, parce que c'est quand même un week-end où on va dépenser beaucoup d'énergie. On va dire, on va pas manger un McDo droit avant, hein. Mais on va faire attention à quand même ce qu'on mange, un minimum, dans le sens qu'on va faire attention d'être bien, afin d'avoir beaucoup d'énergie pour le concours, avoir des vitamines et tout. Et surtout, boire de l'eau, parce que c'est, il faut quand même le dire, c'est quand même, on fait quand même aussi un petit peu la fête, dans le sens que si on gagne, ben c'est comme vous au foot, quand vous gagnez, vous êtes tout content de faire la fête avec vos copains, rire et tout, donc du coup, faut quand même faire un peu attention.
Du coup, avant le concours, vous pourriez manger une entrecôte de bœuf ou pas?
Tout à fait.
Et quelles sont vos émotions avant et pendant le concours, en fait?
Alors, avant le concours, en fait, c'est un énorme stress. Ben déjà, comme j'ai dit avant, de rien oublier. Il faut vraiment être sûr de tout ce qu'on a. Ça a eu arrivé que des copains ont oublié. Par chance, moi je suis quelqu'un qui prend toujours trop de matériel parce que j'ai peur d'oublier quelque chose. Et du coup, on a un gros stress aussi. Juste avant de passer notre passage, on est hyper stressé parce qu'on se dit, ben voilà, on a plusieurs facteurs. On est quatre cavaliers différents qu'on monte par deux en fait. Et du coup, c'est des concours. Comment expliquer ça? On va dire, il y a beaucoup de facteurs. Il y a quatre coéquipiers différents et quatre chevaux différents en face. Donc avec certains cavaliers, on pourra amener une vache différemment qu'avec d'autres. Avec d'autres, on sait comme quoi, par exemple, le cheval est beaucoup plus faible ou le cavalier connaît moins bien les vaches. Alors on va essayer de faire pour tout, pour pouvoir s'entraider entre nous.
Est-ce que vous avez déjà fracturé quelque chose? Si oui, comment?
Alors, fracturé, non. Pas dans mon sport actuel. J'ai déjà eu des accidents comme tout le monde, cassé la main, le genou ou comme ça, mais pas du tout dans les vaches. Sur les chevaux, la dernière fois que je suis tombé à cheval, je me suis fait un joli bleu aux fesses, mais autrement non du tout. Je me suis jamais rien cassé dans ce monde là
donc une vache vous a déjà fait bien mal?
Alors oui, justement. J'ai déjà eu une fois à cheval une vache qui m'a eu tapé dans la jambe, et j'ai eu un joli bleu à la jambe quand j'étais à cheval. Et sinon, lors des préparations, en fait, quand on met les colliers, ça arrive qu'on a des soucis avec les vaches qui nous serrent un peu parce qu'on essaye de leur mettre les colliers et du coup elles sont pas très contentes parce qu'elles sont un peu serrées. Alors il y a un petit coup de tête qui passe par-ci par-là, mais c'est jamais rien de bien méchant, les vaches sont toujours bien traitées.
Et comment vous organisez pour le transport en fait? On vous a pas demandé.
Alors, m'organiser pour le transport, en fait, ce qu'il y a de simple, c'est que le transport, tout dépend du transport de quoi. Moi, mes chevaux, je les transporte derrière ma voiture. J'ai un van pour transporter mes chevaux.
Vous avez quoi comme voiture, en fait?
J'ai une Jeep américaine, je ne sais pas le nom. Et sinon, on fait vraiment tout de nous-mêmes. On s'organise de nous-mêmes pour transporter nos chevaux. Ensuite, pour tout ce qui est du bétail, on a des paysans qui nous louent les bêtes. Soit ils habitent tout près, ils viennent directement nous les amener avec le tracteur et la bétaillère. Ou autrement, c'est directement des gens qui viennent avec des camions et on loue les camions pour qu'ils viennent nous les amener.
Donc vous vous occupez de votre cheval à vous?
Alors oui, moi je m'occupe de mon cheval à moi. Et suivant quel concours, en fait, on s'organise en fait pour l'environnement, de faire du covoiturage, comme on appelle ça chez nous. Et avec un copain, on s'organise assez souvent de prendre les chevaux l'un ou de l'autre et on va faire les concours ensemble. Comme ça, au moins, ça nous fait aussi des petites économies sur le trajet. Et du coup, ben, on met les chevaux les deux dans nos vannes et puis on descend les deux, comme ça au moins ça fait beaucoup moins. Et
puis après, le concours, vous avez des fois des maux de tête, ça fait mal.
Alors des maux de tête, oui, c'est surtout pas forcément, comment dire ça, si c'est des concours dehors, on a quand même le chapeau qui nous protège un peu la tête, mais on va dire qu'on est comme tout le monde, on a aussi des insolations, des choses comme ça. Après des maux de tête, on n'a pas de choc à la tête en direct. Et si on a des soucis, par exemple, comme tomber à cheval, on a déjà eu le cas d'une personne qui est tombée de cheval. Et on a aussi le droit à mettre une bombe sur la tête, c'est un casque, en fait, pour nous protéger afin de ne pas avoir de choc.
Et maintenant, nous vous laissons avec Keten et Joe. Bye à tous!
Maintenant, c'est fini, vous pouvez desseler vos chevaux et nous partons faire un grand tour du monde pour sauver des personnes. Salut Edouard! Qu'est-ce qui est comme le drapeau de la Suisse mais inversé?
Je sais pas.
La croix rouge.
Ah, ok.
Nous nous retrouvons avec Clara Nadège,
Maïva et Edouard, et aussi avec un participant de la Croix-Rouge.
Profil.
Bonjour, pourriez-vous vous présenter en quelques mots?
Oui, bonjour, mon nom c'est Marc, j'ai 50 ans, et je travaille actuellement comme professeur à la Haute École de Travail Social. Mais auparavant, j'ai travaillé pendant 12 ans pour le Comité International de la Croix-Rouge.
Quels sont les objectifs de la Croix-Rouge?
Alors, je suis sûr que vous avez tous et toutes déjà entendu parler de cette formidable idée de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge, c'est un mouvement universel. Il faut savoir que dans chaque pays du monde, vous avez soit une société de Croix-Rouge, soit une société du Croissant Rouge. Vous avez une Croix-Rouge en Amérique, dans les pays d'Afrique, en Asie, en Australie, en Syrie, en Irak. Là, ce sont des Croissants Rouges. Et que, universellement, cette idée s'est répandue depuis plus de 150 ans. C'est pratiquement une des seules idées qui a perduré à travers de nombreuses années, de nombreuses décennies. Il y a des courants philosophiques qui ont émergé à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, mais ces mouvements politiques ont disparu. Mais la Croix-Rouge demeure. Et également, ici à Fribourg, vous avez une Croix-Rouge fribourgeoise. Au niveau suisse, il y a une Croix-Rouge suisse.
Qui est le fondateur de la Croix-Rouge?
Alors, le fondateur de la Croix-Rouge, c'est un épisode un petit peu particulier. Le fondateur s'appelle Henri Dunant. Henri Dunant, c'est un monsieur qui habitait à Genève, un commerçant en Genevois, qui, au cours d'un de ses voyages d'affaires, se trouve confronté à une grande bataille qui s'appelle la bataille de Solferino. Lui n'est pas un militaire, mais ce qu'il constate, c'est que les deux armées se sont affrontées et qu'il en résulte de nombreux morts et de nombreux blessés qui sont un peu laissés pour compte. Il n'y a pas de système médical en place à l'époque, pas d'évacuation. Et ensuite, il rentre à Genève et il aimait l'idée qu'il serait bien qu'il y ait des services qui puissent s'occuper des personnes qui sont blessées lors des conflits. Et donc, vers 1863, avec des collègues, il crée la Croix-Rouge.
Ok. Pourquoi la Croix-Rouge est-elle fondée?
Alors, la Croix-Rouge, elle est basée sur une idée d'humanitaire. Qu'est-ce que c'est l'humanitaire? C'est de mettre au centre de nos préoccupations les personnes qui sont dans le besoin et qui ne peuvent pas forcément subvenir à leurs besoins primaires. On peut penser, par exemple, lors des catastrophes, lors des inondations, il y a des gens qui ont tout perdu, qui n'ont plus à manger, qui n'ont plus de toit, donc ils n'ont plus de capacité de ce qu'on appelle de résilience ou de réaction. Et donc, il faut un organisme, il faut une organisation qui va mobiliser les biens, mobiliser de l'argent pour venir en aide aux personnes qui sont affectées soit par une guerre ou soit par une catastrophe naturelle ou alors plus proche de chez nous par peut-être de la misère ou des problèmes sociaux.
Merci beaucoup. Nous nous retrouvons après une courte coupure musicale.
A time when we heed a certain call, when the world must come together as one.
There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all, we can go on.
Et nous nous retrouvons après la petite pause musicale. Quand avez-vous commencé à travailler pour le CSR?
Oh, alors là, ça remonte à quelques années. J'ai commencé à travailler pour le CSR en 1996 et jusqu'en 2010.
Et pourquoi avez-vous commencé?
Ah, quelles sont mes raisons? Il y en a plusieurs, mais c'est premièrement une volonté de s'engager, de faire un geste par rapport aux victimes de conflits. Il faut savoir que dans les années 90, hein, puisqu'on parle de la décennie 1990-2000, il y a eu de nombreux conflits dans le monde, notamment en ex-Yougoslavie, notamment avec le génocide au Rwanda, et que lorsque vous êtes jeune, vous ne pouvez pas rester insensible à la misère, aux souffrances auxquelles sont exposées les populations civiles. Et si je dis population civile, ça veut dire des enfants comme vous, des jeunes, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap. Et donc, à un certain moment, vous pouvez vous poser la question, est-ce que je n'aurais pas une motivation à apporter, à faire un geste pour ces personnes qui ont besoin d'assistance ou de protection?
Quelle était votre mission?
Alors, à l'intérieur du Comité international de la Croix-Rouge, qui est cette partie, on va dire, cette partie du mouvement Croix-Rouge qui s'occupe spécifiquement des victimes de conflits. Des victimes de conflits, ça veut dire que ce ne sont pas des victimes de catastrophes naturelles. Les victimes de conflits, elles peuvent être nombreuses. On peut penser à des combattants, on peut penser à des prisonniers qui sont maltraités, on peut penser à des populations civiles qui ont dû se déplacer pour fuir les combats, on peut penser à des enfants qui ont perdu le contact avec leurs parents. Et donc, lors de vos missions pour le Comité international de la Croix-Rouge, vous avez différentes responsabilités. Vous pouvez faire de la réunification familiale, une activité dont je me suis longtemps occupé, et qui se décline sous la forme de réunir les familles ensemble. Parce que lorsque vous avez des combats, les populations civiles fuient dans tous les sens et très souvent les enfants se trouvent séparés de leurs parents. Donc des enfants de 8, 9, 10, 12 ans, 15 ans, 17, 18, jusqu'à 18 ans. Et donc, une des missions de la Croix-Rouge, du CICR, c'est d'essayer de trouver les parents afin que les enfants puissent être unis et qu'ils puissent vivre tous ensemble. Parce que vivre seul, vous devenez vulnérable. Et il y a d'autres missions qui concernent, par exemple, visiter des prisonniers et donc s'assurer que les gens qui sont détenus, qui sont prisonniers, qui ont arrêté de combattre, sont bien traités dans les centres, dans les prisons.
Dans quel pays êtes-vous allé?
Oh, alors là, j'ai eu la chance, je dirais, de découvrir des pays. Vous avez compris que travailler pour le CICR, c'est travailler dans des zones de conflit, donc ce n'est pas du tourisme. Mais on ne peut pas non plus nier qu'il y a une part de découverte, de culture. Moi, j'ai beaucoup travaillé en Afrique, au Rwanda, en Ouganda, en Éthiopie, en Angola, en Guinée. J'ai également travaillé en Afghanistan, au Pakistan et en Birmanie. Donc, vous voyez, ce sont sur différents continents, différents pays, mais qui présentent toujours les mêmes caractéristiques. Lorsqu'il y a un conflit armé, ça veut dire lorsque deux groupes militaires armés se combattent l'un l'autre, ça apporte toujours les mêmes conséquences. Il y a des personnes déplacées, il y a des personnes blessées, il y a des personnes qui perdent tout, il y a des enfants qui perdent le contact avec leur famille. Donc, les conséquences des conflits sont très souvent similaires.
Qu'avez-vous fait de dangereux?
C'est une bonne question, ça. Effectivement, travailler dans une zone de conflit, il s'agit déjà de rester en vie si on veut être, si on veut être actif, si on veut pouvoir apporter de l'assistance aux personnes. Donc, il s'agit de bien analyser la situation sécuritaire, c'est-à-dire, est-ce qu'il est possible de se déplacer, par exemple, d'une ville jusque dans une zone affectée par le conflit. Et il est aussi très important d'expliquer aux populations qui est la Croix-Rouge, qui est le Comité international de la Croix-Rouge, que nous sommes là sur une base humanitaire, que nous sommes neutres, que nous sommes non politiques, afin que ces personnes ne nous prennent pas pour des ennemis ou pour être, ou autrement, pour une partie des combattants. Donc c'est à nous d'expliquer à tout le monde, au gouvernement, aux populations civiles, aux responsables politiques, que nous avons une mission humanitaire, et que pour remplir cette mission, nous devons aller partout. Mais nous ne voulons pas aller partout en se faisant tirer dessus, bien sûr. Donc, expliquer que nous allons nous déplacer d'une ville à un village pour porter secours à des populations, à des familles qui ont tout perdu. Donc, elles ont besoin de recevoir peut-être des jerrycans, des tentes, peut-être de la nourriture, des soins médicaux. Donc, c'est important qu'on puisse être respecté, que les travailleurs humanitaires puissent être respectés par tout le monde.
Avez-vous fait une rencontre merveilleuse ?
Pas une, plusieurs, beaucoup. Oui, bien sûr, le métier de l'humanitaire, c'est un métier de contact. C'est un métier de contact avec les humains, donc que vous faites des rencontres, vous échangez avec des personnes, vous discutez. Parfois, vous n'êtes pas d'accord avec certains de vos vis-à-vis. Donc, il faut essayer de trouver, de négocier afin de pouvoir expliquer ce qui est fait. Vous avez aussi des contacts avec vos collègues du pays sur place, hein, des employés de la Croix-Rouge sur place. Donc, avec eux, vous développez souvent des contacts et ils vous expliquent ce qu'ils font dans leur vie, leur famille. Et donc, on fait beaucoup de rencontres. C'est une des caractéristiques de travailler dans l'humanitaire. Il faut aimer le contact, il faut pouvoir s'exprimer. La communication doit être claire. Il faut pouvoir s'adapter parce que celui qui ne s'adapte pas ne fait pas de rencontres.
Merci beaucoup Marc Villemer d'avoir répondu aux questions et merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous voulez faire des dons pour la Croix-Rouge, faites des dons. J'espère que vous êtes bien arrivés à destination. Et maintenant, nous allons parler de quelque chose de très dangereux.
Maintenant, on se rejoint avec Nils et Malou.
Bonjour tout le monde. Nous allons parler sans filtre d'un sujet fumant. Et nous accueillons tout de suite Madame Fabienne Bison pour plus nous parler sur ce thème. Mais go, on n'a pas beaucoup de temps.
Bonjour Fabienne, pourriez-vous en quelques mots vous présenter ?
Alors bonjour, je m'appelle Fabienne Bison. Je travaille au CIPRES à Fribourg, c'est le centre de prévention du tabagisme. Et ça fait donc 10 ans que je travaille là, avec des jeunes comme vous.
Et puis, c'est quoi le CIPRES ?
Alors, au CIPRES, on fait différentes choses. Donc, on a la mission de réduire le nombre de fumeurs dans le canton de Fribourg. Et puis, on fait ça de différentes manières. D'un côté, on motive les jeunes à rester non-fumeurs, donc à ne pas devenir fumeurs. Ensuite, bien sûr, on aide aussi les fumeurs à arrêter. Et puis, en travaillant avec ces différents publics, on espère un jour arriver à faire baisser le nombre de personnes qui fument à Fribourg.
Sait-on quand la cigarette a été inventée ?
Alors, exactement quand est-ce que la cigarette a été inventée, on ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que Christophe Colomb, quand il a été à la découverte du monde et puis qu'il a découvert l'Amérique, il a découvert que les Amérindiens, ils fumaient une plante qu'ils appelaient tabaco. Et puis, ils roulaient dans des feuilles de qui ressemblaient à du papier, et puis il fumait. Donc ça, c'est la première fois que, historiquement, on a une documentation du tabac et des cigarettes. Et ensuite, ça a été amené en Europe.
Donc, le tabac, il vient d'Amérique ?
Alors oui, c'était une coutume des Amérindiens, donc des peuples autochtones de l'Amérique qui utilisaient cette plante et puis qu'ils y attribuaient des vertus un peu mythiques et puis médicamenteuses, c'est-à-dire que ça les aidait à traiter des maladies.
La cigarette pollue-t-elle ?
Alors, oui, la cigarette pollue. C'est en fait, la cigarette pollue de différentes manières. Donc là, je ne vais pas parler de ce que ça fait sur ton corps, mais pour produire les cigarettes, il faut cultiver du tabac. Donc c'est une plante, et puis c'est une plante qui est très très fragile. Et donc il faut utiliser beaucoup de pesticides et d'engrais pour pouvoir la cultiver. Donc déjà, par rapport à ça, ça pollue toute la terre sur laquelle on produit le tabac. Et ensuite, tous les pesticides vont aller dans la terre et dans l'eau qui est sous la terre.
Nous vous retrouvons tout de suite après un petit moment de musique.
La cigarette tue tout doucement 250 milliards de morts par an. Cette maladie si célèbre et merdique est aussi un crabe astrologique. La cigarette, non seulement ça tue, mais ça coûte cher, et puis ça pue. La nicotine te colle aux doigts, tes cheveux sentent le cendrier pendant des mois. Fume, fume cette cigarette, grille des mégots de vieux clopos sur des conseils de médecine. Lui dans poumon magazine, fume, fume et puis oublie les détergents qu'il y a dedans, les bénéfices de l'État, la marche de la Seita. Se déresponsabiliser, on t'a prévenu, c'est écrit dessus, tu vas crever, ne viens pas faire un procès. Sur un fusil ou un lance-roquette, ne manque que cette phrase obsolète. Faites attention, ne tirez pas, vous allez sûrement faire du mal à un gars. Attention !
Nous voilà de retour pour terminer l'interview. Et maintenant, nous allons plus nous intéresser au cyprès et ce qui se passe là-bas.
Quelle tranche d'âge fume le plus ?
Alors, c'est les 15 à 34 ans qui fument le plus.
Mais pourquoi c'est surtout eux qui fument le plus ?
Alors, c'est vrai que la plupart des fumeurs commencent avant l'âge de 18 ans. Donc, entre 15 et 18 ans, c'est la période où on a plus de risques de commencer à fumer. Et puis ensuite, les personnes commencent à penser à arrêter de fumer plutôt quand ils ont 35, 40 ans.
Quelles sont les conséquences du tabagisme ?
Alors, il y a plein de conséquences différentes sur le corps quand on fume. Si on pense dans longtemps, le tabagisme peut causer des cancers, des maladies cardiovasculaires, ça veut dire du cœur et de tout le système sanguin, ou des maladies des poumons, donc en lien avec la respiration. Et après, si on pense un peu plus court terme, ça fait par exemple qu'on a les dents jaunes, ou bien ça colorie les doigts aussi, et puis les ongles un peu jaunes, ou bien ça fait qu'on a plus vite des rides, donc ça vieillit la peau.
Comment le tabac provoque-t-il des maladies aux poumons ?
Alors, tu vois, quand on fume, on inhale la fumée de la cigarette, et dans cette fumée, il y a plein de substances toxiques et chimiques. Et en inspirant cette fumée, les substances vont dans nos poumons. Et il y a une partie qui va rester bloquée dans les poumons. Par exemple, le goudron qu'il y a dans la fumée de tabac, il va rester dans les poumons. Mais après, il y a une partie de ces substances chimiques et toxiques qui vont s'infiltrer dans le corps entier à travers le sang. Donc, du poumon, les substances vont dans le sang qui le transporte ensuite dans tout notre corps.
Pourquoi la nicotine rend-elle dépendant ?
Alors, la nicotine, donc ça c'est une substance qu'il y a dans la fumée de tabac, et c'est effectivement la nicotine qui crée la dépendance. Donc la dépendance, ça veut dire qu'on a toujours le sentiment ou la sensation qu'on a besoin de fumer une nouvelle cigarette. On n'arrive pas à résister à quelque part. Et en fait, c'est tout un mécanisme ce qui se passe dans notre cerveau où quand on fume, on se sent bien, par exemple, on se sent soit calme, soit on se sent concentré. Et puis, une fois que l'effet de la nicotine diminue, bah, on a de nouveau envie de ressentir le même effet. Donc, c'est comme ça que la dépendance s'installe. Et puis, c'est la nicotine qui crée ce mécanisme dans notre cerveau et dans notre corps.
Comment faites-vous pour aider les gens à arrêter de fumer ?
Alors, ce qu'on fait chez nous, pour les gens qui ont envie d'arrêter de fumer et qui ont peut-être essayé tout seul et puis qui n'y arrivent pas, ben, ils peuvent venir chez nous et puis ils peuvent se faire accompagner à travers une spécialiste et qui va les aider à développer des nouvelles stratégies, par exemple, pour les gens qui fument toujours une cigarette en attendant le bus, on va travailler pour réfléchir à ben, qu'est-ce que je pourrais faire à la place. Et puis on va aussi les aider à trouver d'autres solutions pour ne plus avoir envie justement de fumer cette cigarette. Voilà, donc de préparer et puis on les aide pour ne plus avoir les symptômes.
Vous les accompagnez les gens ?
Oui. Alors, pour les personnes qui ont envie, ils peuvent venir chez nous. Et puis, il y a une spécialiste qui est dans notre équipe qui peut aider les fumeurs qui ont envie d'arrêter.
Et vous êtes spécialiste ou pas ?
Oui.
Ok.
Si vous avez besoin d'aide pour arrêter de fumer, n'hésitez pas à aller au Cyprès. Route Saint-Nicolas de Flou à Fribourg.
Et puis maintenant, passons en musique avec Aldebert, la complainte de l'ex-fumeur. C'était Nils et Malou. Et on s'évapore.
Affranchi comme une carte d'un timbre sur l'épaule droite, c'est la traversée du désert. Je viens d'écraser la dernière. Comme un grand coca glacé sous la canicule d'été qu'on vous empêcherait de boire et sur lequel on peut s'asseoir. 24 heures sur 24, la blessure arbitraire, la convoitise opiniâtre d'une bouffée salutaire. J'ai pour mâcher des trombones et tordre des clous à cette idée qui se cramponne. J'aimerais tordre le cou, c'est décidé, j'assume. Terminé, j'arrête. Je ne fume plus une cigarette. C'est sympa de m'accompagner.
Maintenant, vous saurez, il ne faut jamais fumer. Et nous allons tout de suite parler d'un sport de confiance.
Bonjour à tous. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est cet extrait ?
Continue comme ça. Laisse aller. C'est plat. Gauche libre, c'est raide. C'est large. Il n'y a pas de bosse.
La mer ?
Non.
Les feuilles mortes ?
Non.
Ah, je sais. Le ski ?
Oui, c'est un tandem de ski. Et on va laisser Lucie et Loretta nous en parler.
Profil.
Alors bonjour, on a aujourd'hui deux invités. Pourriez-vous vous présenter en quelques mots ?
Je m'appelle Carole, j'ai 47 ans. Je suis psychologue conseillère en orientation. Je suis aveugle et je pratique le ski depuis que j'ai 6 ans.
Que signifie GRSA ?
Bonjour, moi je m'appelle Yves Alain, c'est moi qui ai accompagné Carole ici, je suis guide au GRSA depuis 30 ans et puis j'ai également fait à Carole la formation des candidats guides. Le GRSA signifie groupement roman des skieurs aveugles.
Donc on peut skier en même temps aveugle, comment faites-vous ?
En fait, on se distingue sur une piste déjà par la couleur de nos vestes. La personne qui est en situation de handicap, c'est-à-dire la personne malvoyante ou aveugle, skie avec une veste jaune barrée de noir et son guide va skier avec une veste rouge barrée de noir. Derrière, dans le dos, ils ont un logo avec un œil et une canne blanche. Sur la veste rouge, il est inscrit « guide ». Après, la pratique du ski, ça fonctionne avec des ordres que vous pourrez entendre si vous skiez et vous croisez un tandem. Un tandem, c'est un handicapé de la vue et son guide. Et puis, en fait, le guidage se fait à la voix, en avant, gauche, droite, halte. Comme vous l'avez entendu dans le reportage juste avant.
Monsieur Yvalin, qu'est-ce qui vous a inspiré pour faire partie du GRSA?
Alors, il y a 30 ans en arrière, j'étais moniteur de ski, jeunesse et sport. Et puis, j'avais plus tellement envie de skier, d'enseigner le ski. Et une fois, je me trouvais sur les pistes à Molaison et j'ai vu un tandem. Et comme je suis arrivé en même temps qu'eux pour reprendre les installations, j'ai engagé la conversation et puis j'ai trouvé la démarche très intéressante. Je me suis donc intéressé, j'ai appelé les responsables. À l'époque, Internet n'existait pas. Et je me suis inscrit à la formation et j'ai été faire la formation. Et depuis ce moment-là, je suis guide.
Quelle formation faut-il faire pour faire partie du GRSA?
Alors actuellement, la formation dure en tout 5 jours. C'est d'abord une journée de tests techniques où on regarde quelles sont les compétences des skieurs candidats qui s'annoncent. Et on leur fait faire également quelques exercices en rapport avec le futur guidage qu'ils feront. Là, on sélectionne les candidats qui ont le niveau technique suffisant. Et puis, suit 2 week-ends de formation. Durant ces week-ends de formation, on alterne le ski avec des skieurs malvoyants et le ski avec des skieurs non-voyants, parce que ce n'est pas la même technique de guidage. Et au bout de cette formation, si on les accepte, ils sont donc admis à skier tout seuls avec un handicapé de la vue, parce que durant la formation, il y a toujours un tandem formateur. Et puis, par la suite, il doit effectuer 12 jours de guidage dans les 2 années qui suivent. Et c'est seulement au bout des 2 ans qu'il est définitivement admis et qu'on lui donne une veste de guide.
D'accord. On arrête ici pour le moment et on vous laisse avec une pause musicale. Gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world, I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy. So don't stop. On se retrouve après la pause musique. Monsieur Yvalin, utilisez-vous du matériel spécial? Et aussi Carole Coulot.
Alors, c'est moi qui vais répondre. En fait, on utilise des radios. C'est-à-dire que actuellement, quand on skie, ça fait beaucoup de bruit. Les pistes sont glacées, il y a du vent, il y a des autres skieurs. Donc, le guide a un micro et donne ses ordres dans le micro. Et moi, je les entends dans une oreillette que j'ai dans l'oreille. Ce qui me permet d'être beaucoup plus précis, de ne pas sans arrêt avoir à tourner la tête et le guide à crier trop fort pour qu'on puisse s'entendre. Ça, c'est un des premiers outils qu'on utilise. Le deuxième est quand on fait des chousses. En fait, la personne qui est non-voyante a énormément de peine à laisser les skis aller tout droit quand il faut faire un chousse ou quand il faut faire un chemin. Donc, dans ces occasions-là, ce qu'on fait, c'est qu'on se tient avec le bâton. Le guide vient chercher le bâton de la personne handicapée de la vue. Et puis comme ça, on skie ensemble sur les portions de piste où on va en fait tout droit.
Alors, je me permets de compléter. Avec Carole, il y a encore une pièce d'équipement supplémentaire. C'est une pièce de 5 francs. Vous savez pourquoi?
Non.
Alors, je lui mets la pièce 5 francs dans son gant à droite. Puis je lui dis, Carole, où t'as la pièce 5 francs? C'est là, à la droite. Parce qu'il arrive qu'elle se trompe.
Ah ouais.
Même assez souvent, malheureusement.
Comment faites-vous pour remonter les pistes avec les assiettes?
Alors, avec les assiettes, en fait, le guide va devant. Il doit souvent se retourner pour nous rediriger sur la piste parce que des fois, l'assiette, elle tire un peu à gauche, elle tire un peu à droite ou bien on frôle un peu trop proche les pylônes. Et puis, il est assez fréquent que la montée, on ne la fasse pas du premier coup. Le week-end dernier, on skiait à Zinal. Et puis, la fin de la piste, il y avait un dévers, c'est-à-dire que la piste, elle versait un petit peu sur la droite, où il y avait le panneau d'arrivée, et sur la gauche, il y avait le pylône. Première montée, j'étais trop à droite, donc j'ai pris le panneau d'arrivée et puis j'ai culbuté. La deuxième montée, je me suis dit, ah, cette fois je fais autrement, et hop, j'ai chopé le pylône. Donc je n'ai jamais arrivé en haut.
Quelle station préférez-vous ?
Il y a beaucoup de stations que j'aime bien, mais j'aime beaucoup la station de Grimens, j'aime Montana, et puis bien sûr toutes les Alpes fribourgeoises.
Alors peut-être la question la mieux aurait été, mais quelle sorte de piste vous préférez ? Parce que Carole, elle aime les pistes noires. Plus c'est raide, mieux elle aime ça, quoi. Et beaucoup de skieurs non-voyants, en tout cas, les malvoyants peut-être un peu moins, aiment beaucoup skier sur des pistes raides. Et la raison, c'est qu'ils sentent beaucoup mieux la pente.
Est-ce que vous avez des pistes qui sont privées que pour vous ?
Non, on n'a pas de pistes privées. On skie avec tout le monde. C'est plus facile de skier et d'être guidé quand il y a moins de monde sur les pistes. Donc le ski en semaine ou hors des vacances scolaires, c'est préférable. Mais on skie aussi volontiers le week-end et pendant les vacances. Simplement, si on skie au même rythme que les autres, eh bien, ça fonctionne.
Quelles émotions ressentez-vous quand vous skiez ?
Le ski, le guidage, ça fonctionne sur la confiance. Donc moi, en principe, j'ai du plaisir à skier. Et puis des fois, eh bien, quand il nous arrive des aventures, que vous allez trois fois mordre le bord de la piste parce que votre guide ne vous a pas donné l'ordre assez vite, vous n'avez pas réagi suffisamment tôt, eh bien, tout d'un coup, eh bien, s'il y a des gens qui viennent un peu trop proches, des fois, ben, la confiance, elle se perd un peu et puis on devient un petit peu plus stressé.
Donc, elle ne parle pas de moi ici. Hein, parce que moi, je suis un très bon guide.
Non, on parle toujours des autres.
Mais ça doit pas être quand même un peu compliqué de se faire vraiment confiance à ce point, de pouvoir se laisser guider.
Alors, la confiance, ça se construit. Plus on va skier avec une personne, plus on va se connaître, et puis plus on va pouvoir faire confiance, parce que chacun sait comment réagit l'autre. Et puis, quand on skie avec quelqu'un, ou c'est nouveau, ou bien qu'on a moins d'affinité, eh ben, c'est des journées qui sont un petit peu plus compliquées et puis où on a un peu moins confiance.
Alors, la confiance existe aussi pour le guide. Hein. Le guide doit aussi avoir confiance dans la personne qui guide. Et particulièrement quand je skie avec Carole, je suis très à l'aise parce que j'ai une très grande confiance en Carole parce que c'est une très très bonne skieuse. Elle est capable de skier facilement au-delà de 60 à l'heure en bas les pistes nord. Et c'est aussi important que le guide il ait confiance dans la personne qui guide. D'être sûr que quand je vais lui dire droite, elle va tourner à droite. Bon, ça, elle ne fait pas toujours, mais ça, je sais. Mais quand je lui dis de ralentir, elle va ralentir. Et puis quand je lui dis de faire des virages serrés, qu'elle va faire des virages serrés.
D'accord. Alors, on se retrouve après une petite pause musicale.
Alors, on se retrouve après quelques notes de musique pour une dernière petite question. Est-ce que ce sont plutôt des aveugles qui vont chercher des guides ou ce sont des guides qui cherchent des aveugles ?
Je dirais ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que quand on est en situation de handicap, quand on est aveugle, malvoyant, sans des guides, on ne peut pas skier. Donc, le guide, en fait, lui, s'il peut aller pratiquer son sport, il n'a pas besoin d'accompagner, il peut aller tout seul. Mais nous, si on n'a pas des gens qui nous aident, eh bien, on ne peut rien faire. Donc voilà, le groupement roman de skieurs aveugles et malvoyants, GRSA, recherche chaque année de nouvelles personnes pour venir guider. Et puis, donc moi, j'invite toutes celles et tous ceux qui sont intéressés à faire le www.grsa.ch. Mais j'invite aussi toute personne qui connaît quelqu'un qui a un handicap de vue et puis qui ne peut plus pratiquer le ski ou qui ne l'a jamais fait, eh bien, de contacter ce groupement, parce qu'on attend aussi les personnes qui ont un handicap avec les bras ouverts pour leur apprendre à skier ou peut-être pour leur redonner le plaisir de skier parce qu'ils auraient perdu la vue un jour ou l'autre. Donc voilà, on compte sur tous vos auditeurs pour faire ça.
Alors notez ça et on remercie bien fort Carole et Yves-Alain pour cette petite interview.
Merci à Lucie, Louise, Loretta et Théo.
Si jamais tu cherches un refuge, place où personne ne te juge, tu trouveras toujours chez moi un endroit qui ressemble à ça. Si un jour tu sens le besoin de parler à quelqu'un, de mettre des mots sur tes peurs, si tu en as gros sur le cœur, tu peux compter sur moi.
Maintenant, nous savons, on peut skier en étant aveugle. Et pour finir, nous allons parler d'un sujet triste.
Salut Nevio, je me suis posé une question en me levant ce matin. En fait, c'est quoi SDF ?
C'est vrai, j'y ai jamais pensé. C'est quoi un SDF ?
Pas de problème, nous allons en parler avec Jean-Marc Boux.
Bonjour Jean-Marc Boux.
Bonjour.
Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Alors, je m'appelle Jean-Marc Boux, j'ai 47 ans, je suis marié, j'ai 4 enfants, je travaille pour l'Église catholique et parmi mes mandats, j'ai un mandat d'écoute en gare, à la gare de Bulle et de Fribourg, pour aller à la rencontre des gens qui gravitent autour de la gare.
En fait, c'est quoi un SDF ?
Alors, c'est quoi un SDF ? Vous avez jamais entendu la signification par rapport aux lettres SDF ?
Si. Oui, sans domicile fixe.
Juste, tout à fait. Alors SDF sans domicile fixe, il peut y en avoir, effectivement il y en a, que ce soit à Bulle ou à Fribourg, c'est assez discret bien sûr, les gens, c'est pas marqué sur eux qui sont sans domicile fixe, mais il arrive que par différentes situations, ils se retrouvent sans domicile.
Que faites-vous avec les SDF ?
Alors, moi je vais rencontrer les gens à la gare, je ne sais pas s'ils sont, comme on dit, SDF ou pas. À Fribourg, il y a un centre d'accueil de nuit qui s'appelle La Tuile, qui héberge les gens qui n'ont pas de logement. Après, il peut arriver qu'il y ait des gens qui ne soient pas acceptés pour différentes raisons à la tuile ou ailleurs et qui se retrouvent concrètement dans la rue pour une nuit ou plusieurs. Moi, mon travail, c'est simplement d'être à l'écoute des gens qui sont à la gare et d'être là pour discuter, pour écouter.
Puis eux, est-ce qu'ils aiment bien être quand vous allez avec eux ?
Alors je crois que dans notre société, déjà avant, mais maintenant encore plus, pouvoir aller vers quelqu'un, simplement lui dire bonjour, c'est déjà le faire exister. C'est déjà lui montrer qu'il est quelqu'un, quelle que soit sa situation. Et puis ça, c'est déjà quelque chose d'énorme. Et je crois que d'être avec des gens qui sont souvent isolés, un peu seuls, sans domicile fixe et aussi souvent sans relation. Et puis aller à la rencontre de ces personnes, c'est un peu rentrer dans leur histoire et puis c'est leur donner la possibilité de s'exprimer. Et ça, en général, pour beaucoup, c'est important d'avoir quelqu'un à qui on peut parler.
C'est depuis quand que vous, vous parlez au SDF ?
Alors, encore une fois, je ne parle pas uniquement à des personnes SDF. Je trouve difficile de dire des SDF, parce que ça met un peu une étiquette. C'est comme, j'ai toujours la peine quand on parle des handicapés. On peut parler des personnes handicapées ou bien des personnes SDF, mais voilà. Moi, je fais ça depuis bientôt 2 ans, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'à la gare de Fribourg, il y a des personnes comme moi, je suis d'ailleurs pas le seul, qui sont à l'écoute des gens depuis plus de 25 ans.
Y a-t-il beaucoup de gens qui vous soutiennent dans votre parcours ou...
Qui me soutiennent qu'est-ce que tu entends par là?
Que vous aidez les personnes.
Alors, je le disais, on est un peu une équipe. Y a des personnes qui sont engagées comme moi par l'Église, qui sont rémunérées en partie, et il y a des bénévoles aussi qui sont là. On est une petite équipe de 5-6 personnes en général.
Qu'est-ce qui vous en a donné envie?
Ce qui m'a donné envie, c'est un petit peu... On appelle ça l'appel, donc un des responsables de l'Église qui disait, cet accueil à la gare de Bulle, il existait, il n'existe plus, on aimerait remettre ça sur pied, on a besoin de quelqu'un qui serait intéressé à remplir un peu cette tâche, et puis ça m'a interpellé, ça m'a questionné, je me suis dit, mais là, il y a certainement quelque chose à faire, et puis bon, je ne sais pas si je suis vraiment la personne adéquate, mais quelque chose qui m'intéressait, je me suis dit, ouais, je déclare mon intérêt, puis on verra comment ça suit.
On se retrouve après une coupure musicale.
J'aimerais que ça cesse, de se dégrader, sans un ménage, S, T, F. Ce qui me blesse, S, c'est d'être soldé, D, pour pas baiser, F. S, T, F. J'ai pas l'adresse, S, rien à garder, D. J'ai pas le téléphone, F. S, T, F. Rien dans la caisse, S. Rien à fonder, D. J'ai pas de sous-chef, F. S, T, F.
Voilà, on se retrouve avec Jean-Marc Boux. Quelle relation avez-vous avec les SDF ou les sans-domicile fixe?
Ou les personnes, ouais. SDF, oui. C'est des relations qui varient énormément. Chaque personne est différente, chaque personne en situation difficile ou en situation de précarité ou SDF est difficile. Mais encore une fois, je ne fréquente pas uniquement des personnes qui sont sans domicile. Il y a des relations qui cheminent presque vers l'amitié. Encore hier soir, une personne me téléphone, elle a été dans la rue pendant presque 3 ans, et maintenant elle s'en sort, mais elle est gravement atteinte dans sa santé. Le médecin lui a dit qu'il lui restait plus que 8 mois à vivre. Et puis c'est quelque chose qui est bien sûr très douloureux, très difficile. C'est une personne qui est toujours fréquemment en gare parce qu'elle rencontre des gens et ça lui permet de discuter. Et puis elle me disait, mais voilà, j'ai besoin de te dire que je dois retourner à l'hôpital, et puis j'ai besoin de te dire ça parce que tu es un ami. Donc voilà, il y a un peu cette relation d'amitié peut-être qui peut parfois arriver, ou bien une relation de confidence, de partenariat, de fraternité.
Et puis est-ce qu'il y en a déjà de ceux que vous avez vu qui étaient vraiment en mauvaise santé, et puis...
Alors il y en a beaucoup qui sont en mauvaise santé pour X raisons. Souvent il y a des problèmes après de dépendance par rapport à certains produits, l'alcool, certaines drogues. Et souvent il y a des problèmes de santé, effectivement.
Comment sont-ils devenus sans-abri?
Il peut y avoir beaucoup de raisons qui fait que quelqu'un commence à perdre pied et se retrouve sans abri. Ça peut être la perte d'un travail, ça peut être le conjoint, la femme, le mari qui quitte. ça peut être le début d'une maladie, la dépression, et puis toutes ces choses font que on perd pied, on perd l'équilibre, et puis on peut se retrouver, ça peut aller jusqu'au fait qu'on perde son domicile. Après, j'ai quand même envie de dire que ça reste des cas qui sont heureusement pas très courants. Je ne sais pas s'il faut parler de pas très nombreux, mais ce qui est dramatique, c'est qu'il y en a effectivement, et même une personne qui se retrouve sans domicile fixe, c'est une histoire qui est dramatique, qui est triste.
Et puis, y a-t-il beaucoup de personnes en situation de précarité, mais pas tout à fait SDF, mais
ouais,
aussi pauvres?
Bonne question. Après, il y a eu dernièrement un événement à la gare où on interrogeait les étudiants de l'école de travail social, interrogeaient les passants à propos de ce thème de la précarité. Qu'est-ce que ça veut dire, la précarité? La précarité, on l'a employé un peu pour remplacer le terme de pauvreté, mais on peut se retrouver en situation de précarité ou dans une certaine pauvreté par rapport à différentes choses. Il y a une pauvreté matérielle, il y a une pauvreté relationnelle quand on rencontre personne et qu'on se sent seul. Il y a une précarité par rapport à la santé aussi qui est peut-être parfois atteinte. Donc oui, il y a beaucoup de personnes en situation de précarité. Et puis j'ajoute juste peut-être par rapport à cette situation de précarité, finalement c'est pas les personnes qu'on pense peut-être ou qu'on imagine en les voyant, ah ceux-là sont en situation de précarité. Il y a des personnes qui sont peut-être tout à fait, qui présentent un aspect normal et puis qui eux se retrouvent dans une précarité parce qu'ils ont eu des difficultés au travail, ils ont fait un burn-out. Ça me fait penser à une personne qui devait avoir la soixantaine, une dame qui était bien habillée, probablement qui avait un bon travail, je ne sais pas, dans une banque. Et puis, tout d'un coup, elle vient vers moi pour me dire, mais ouais, vous savez, moi, l'année passée, j'ai fait ce burn-out et puis je me suis retrouvée toute seule. Et j'en ai, pardonnez-moi l'expression, j'en ai chié, quoi, parce que j'étais seule. Et puis, ça fait du bien de pouvoir rencontrer des gens et de pouvoir parler avec eux. Voilà.
Est-ce qu'il y a-t-il des gens dans les gares qui sont des personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent qui sont tombées dans les pommes devant vous?
Non, j'ai pas eu cette expérience. J'ai une fois croisé l'ambulance qui repartait de la gare juste quand j'y allais. Et voilà, j'ai un peu peur de me retrouver dans cette situation tout prochainement avec une de ces personnes que j'accompagne, dont j'ai parlé tout à l'heure et qui a une santé qui est très atteinte. Mais oui.
Où sont-ils surtout les personnes sans abri?
Alors, il y a des lieux comme justement la gare qui font se rassembler un peu des personnes qui cherchent à rentrer en contact avec les gens, à être en relation. Donc il y a à Fribourg la gare, où il y a des personnes qui gravitent. Il peut y avoir des jardins où les gens se retrouvent facilement et ça leur donne l'occasion de se retrouver, de discuter aussi.
De quoi ont-ils surtout besoin les personnes en situation de précarité?
Ils ont besoin d'un regard, ils ont peut-être besoin qu'on leur dise d'abord bonjour, encore une fois. Ils ont besoin de savoir qu'ils existent aussi pour les autres. Ils ont besoin de respect, ils ont besoin d'attention.
Ok. Êtes-vous déjà allé dans des autres pays pour aider les personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent?
Je suis allé dans différents pays, en Asie, en Inde, à l'île Maurice, et je me suis retrouvé dans plusieurs circonstances, aussi avec des personnes qui étaient dans la rue. Et finalement, le constat est un peu le même dans une certaine mesure, que ce soit en Inde, à l'île Maurice ou ailleurs. La première précarité, c'est d'être rejeté ou d'être exclu par les autres.
Merci beaucoup Jean-Marc Boux pour tout et maintenant ayez un regard bienveillant envers les autres.
Merci à vous.